Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciats, et bienvenue dans votre émission Page à page, où nous nous retrouvons comme chaque jeudi sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Didier Goupil. Bonjour Didier.
Bonjour.
Qui va nous parler de ses deux derniers livres. Alors il y a d'abord Castro est mort, un roman édité en 2007 aux éditions du Rocher. Et puis Cellule K, une nouvelle qui est éditée aussi aux éditions du Rocher, qui date de 2008. On en parlera donc dans un instant avec lui. En attendant, quelques petites infos. Je vous l'avais dit, dimanche dernier, 21 septembre, à Lauzerte, avait lieu la remise du prix de la nouvelle, organisée par notre ami Jacques Griffaud, qui était venu nous en parler ici à Page à Page. Alors, je vais vous dire le nom du lauréat. C'est Yves Lériadec pour son recueil « Les hommes aussi ont besoin d'amour ». Donc, si vous avez envie de découvrir ce recueil de nouvelles, n'hésitez pas. Il a un joli titre, en tout cas. Moi, personnellement, je ne l'ai pas encore lu, mais bon, je vais le faire. Ensuite, ce week-end, samedi 4 et dimanche 5 octobre, à Moissac, aura lieu le Salon du Chocolat. Alors, la librairie du Scribe sera présente également dans l'espace noir du salon, avec présentation de polars, alors des romans noirs, du café noir, bien sûr, et du vin noir du Brulois. Il y aura Pascal Dessin qui sera présent le samedi 4 après-midi, et puis Emmanuel Lurien et Manucos qui seront présents le dimanche 5 après-midi. Donc, si vous êtes du côté de Moissac ou si vous avez envie d'y aller, n'hésitez surtout pas. Ensuite, vendredi prochain, le 10 octobre, à Muret, je vous préciserai l'adresse mercredi prochain parce qu'on ne me l'a pas communiqué. Alors à Muret, vendredi prochain à 21h, vous aurez le plaisir de voir ou de revoir, si vous ne l'avez pas vu à la FNAC dernièrement, Philippe Ségur qui remettra le prix du jeune écrivain. Alors il y a 6 nominés français et 6 nominés francophones, âgés tous de 15 à 24 ans. Donc Philippe Ségur remettra le prix au lauréat. Et ensuite, à 22h20, une rencontre avec l'auteur, donc avec Philippe Ségur, sera prévue avec... Et il présentera bien sûr son dernier livre, Vacances au pays perdu, comme il l'avait présenté dernièrement, Place Wilson. Et je vous signale que Philippe Ségur sera Page à Page le jeudi 20 novembre. Voilà. Ensuite, un atelier d'écriture animé par Hélène Dufaux, qui est une écrivain de notre région, que Didier Goupil connaît bien d'ailleurs aussi, aura lieu le dimanche 12 octobre de 10h à 17h au local Ayamé, qui se situe 20 rue Figeac, à Toulouse, dans le quartier des Minimes. Alors, un pique-nique est à prévoir et les inscriptions sont nécessaires, bien sûr, pour prévoir le nombre de personnes. Alors, le numéro de téléphone que j'ai, j'espère que c'est le bon, c'est le 09 54 42 63 49, 09 54 42 63 49, et c'est pour dimanche 12 octobre. Et puis, je terminerai la petite page info en rappelant que hier, 1er octobre, eh bien, c'était un anniversaire important puisque c'était les 40 ans du MLF, il faut quand même le dire. Voilà, 1er octobre 1968 et 1er octobre 2008. Et à cette occasion, il y a un livre qui sortira le 16 octobre, un énorme livre de plus de 600 pages. Avec, qui s'appelle Génération MLF 1968-2008, avec de nombreuses images d'archives, des documents d'histoire, des témoignages de militants, des fragments de vie, enfin, un superbe livre, donc, pour ses 40 ans d'existence. Donc, c'est à découvrir absolument à partir du 16 octobre. Et je rappellerai que Antoinette Fouque, qui a fondé la maison d'édition, l'édition des femmes, à Paris, est aussi la cofondatrice du historique du MLF. Voilà.
Page à page, Claire Ambille.
Pou, pou, pitou. Alors, la page des infos étant refermée, je me tourne vers mon invité, Didier Goupil. Alors, Didier, vous êtes originaire de Paris.
Oui, c'est bon.
Mais vous êtes Toulousain d'adoption.
Depuis... Oui, originaire natif.
Natif, voilà, carrément.
Je suis né à Paris, j'ai vécu enfant jusqu'à l'âge de 10 ans, mais je vis en, en région, en province et plus particulièrement dans le sud depuis. Marseille beaucoup, Montpellier, Nîmes, Perpignan, petite virée bretonne et puis depuis 2001 avec beaucoup de plaisir à Toulouse.
À Toulouse. Et vous êtes professeur de lettres.
Voilà.
De français, plus exactement.
Voilà, de français, ce qui explique un peu les déplacements géographiques, hein, puisque quand on est étudiant dans le sud, on est forcément enseignant, en tout cas, en début de carrière dans le nord ou dans l'ouest.
Avant d'être
voilà.
Muté.
Donc, entre la banlieue parisienne et la Bretagne, j'avais choisi quand même la Bretagne.
Oui, malgré la pluie.
Voilà, malgré la pluie, mais pour la mer.
D'accord. Donc, vous êtes professeur de français au CNED, au Centre National d'Enseignement à Distance.
Voilà, depuis 2000, là, je suis enseignant par correspondance.
Tout à fait. Et vous êtes également scénariste, vous avez fait un court-métrage?
Alors effectivement, je suis dans l'écriture maintenant depuis quand même pas mal d'années. Hein.
Le premier date de 1995.
Alors 95, effectivement, en termes de publication, encore plus antérieur en termes d'écriture.
Hein, oui.
En 95, c'était un recueil de nouvelles qui s'appelait Malter, donc était composé d'une dizaine de nouvelles. Et effectivement, on va dire que la réalisation, on va dire la finalisation de l'écriture sous forme achevée, c'est-à-dire sous forme de texte fini, en l'occurrence de récits courts ou de nouvelles, date des années 90.
Mais vous avez toujours écrit, quoi.
Voilà,
depuis que vous êtes en âge d'écrire.
J'ai toujours écrit, effectivement, voilà. J'ai d'abord beaucoup lu. Je crois que le rapport à l'écriture est d'abord un rapport à la lecture, hein, essentiellement.
C'est lié, oui.
C'est extrêmement lié. Le hasard a fait que, justement, durant ces années d'enfance parisienne, je vivais avec ma mère tout seul, avec ma mère travaillait, donc j'étais quand même assez régulièrement seul à la maison, et que à l'époque il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio. Je parle d'un temps que les jeunes et mes enfants actuels ne connaissent pas.
Oui, maintenant ils ont l'informatique,
voilà,
ils ont un tas de choses.
Donc il n'y avait pas tout ça. Il y avait quelques livres que j'ai dû relire et relire, à mon avis plusieurs dizaines de fois, si ce n'est pas une centaine de fois. Et puis à un moment donné, je crois que dans la tête, quand on lit, il y a une sorte comme ça de vanne, de porte qui s'ouvre, et puis vos propres mots viennent, votre propre imaginaire vient et se mélange en fait à ce que vous lisez.
Oui, vous écrivez partout. Alors, il paraît que vous écrivez sur des serviettes en papier au restaurant, sur des petits carnets, vous prenez beaucoup de notes, sur des tickets.
Oui, il y a deux manières d'écrire,
voilà,
effectivement.
Vous prenez beaucoup de notes.
Voilà, et c'est vrai que durant l'adolescence, il y avait une écriture qu'on pourrait qualifier, qui est assez répandue dans l'adolescence, qui est une écriture purement adolescente. Dans les années, on va dire, entre 20 et 25 ou 26 ans, l'écriture est passée plus sous un format universitaire. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai poursuivi des études de lettres avec une maîtrise, avec un DEA, sur un sujet comme ça, qui a l'air un peu austère, mais qui ne l'est pas du tout, qui était la poésie cubiste. C'est-à-dire montrer l'influence au début du siècle, hein, dans les années 1900, 1920, entre la peinture cubiste, Picasso, Gris, etc., et la poésie,
et la
prose cubiste, c'est-à-dire, par exemple, des gens comme Pierre Reverdy, originaire de Narbonne, ou des gens comme Max Jacob, enfin bon, etc., etc. Et vers 25, 26, 27 ans, c'est vrai que l'écriture universitaire est une écriture un peu sèche, une écriture quand même qui laisse peu de place à l'imagination, qui est extrêmement formative, et que c'est vrai que j'ai eu besoin de trouver une plus de plaisir, plus de liberté, plus de personnalité, plus d'intimité dans l'écriture, et que j'ai au fur et à mesure totalement abandonné l'écriture purement universitaire pour l'écriture réellement de fiction.
Mais vous avez un style quand même. Enfin, moi j'aime beaucoup. J'ai aimé beaucoup là les deux livres que j'ai lus. Vous avez un style. Quand je dis simple, c'est pas péjoratif. Hein, c'est dans le sens. Ce sont des phrases courtes souvent et compréhensibles. Enfin,
oui.
Je veux dire, c'est un style.
Alors je dirais pas simple.
Aisé,
je dirais clair.
Clair. Oui, voilà. Bon, voilà, bah, voilà un style clair.
Non, clair. C'est-à-dire que j'aime bien.
C'est limpide. Voilà. Ça se comprend.
Voilà.
C'est compréhensible.
Voilà.
Et c'est quand même le but de quand on écrit, c'est que les personnes qui lisent puissent comprendre facilement.
J'aime bien qu'il y ait un fil, j'aime bien qu'il y ait une musique, et j'aime bien effectivement, dans le meilleur des cas, si le lecteur daigne me faire le plaisir de venir sur les premiers paragraphes, les premières pages, les premières lignes du livre, j'aime bien qu'il ait toutes les chances d'aller jusqu'au bout.
Tout à fait.
Voilà, c'est la première raison. Et puis la deuxième raison, Je ne crois pas à l'hermétisme. Je ne crois pas à l'opacité. Je pense que c'est des caractères qui peuvent avoir un certain sens par rapport à certaines œuvres intellectuelles, philosophiques ou autres. C'est vrai qu'en littérature, j'aime bien les choses qui sont faussement simples, faussement ingénues et qui en fait se révèlent beaucoup plus nuancées, beaucoup plus complexes. Après, c'est vrai aussi que, sans faire d'explication, on va dire, purement autobiographique ou purement psychologique, j'appartiens à un milieu social très simple. Ma mère vient de Hadas, elle a appris très tardivement à lire, très tardivement à écrire. Il n'y avait pas de livres et pas de culture dans le milieu dans lequel j'ai évolué, dans lequel j'ai grandi. Et j'ai toujours réfléchi mes livres avec cette double obsession, cette double ambition, à la fois être lisible, on va dire, pour le critique le plus exigeant de la presse parisienne, et en même temps pour que ma mère puisse lire mes livres du début à la fin et les comprendre.
Soit accessible, même à des personnes qui n'ont pas eu la chance
d'avoir la lecture, d'avoir cet outil lexical ou un outil linguistique de performant. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ces deux prétentions, on va dire, ces deux ambitions, ces deux exigences. Et c'est vrai que s'il y a une satisfaction dans la publication des livres, qui est toujours un peu frustrante, abstraite. Ce qui est compliqué dans un livre, c'est que vous passez un an et demi à l'écrire, que souvent il est publié, quand il est publié, quand vous avez la chance qu'il soit publié.
Bon, pour vous, ça marche. Ils sont publiés.
Oui, ils sont publiés. J'ai beaucoup de chance. Non,
ils sont même réédités en poche.
Tout à fait. Non, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai aussi des éditeurs à l'étranger.
Ils sont traduits en allemand.
J'espère bientôt aux États-Unis. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Mais c'est vrai que il y a une forme de frustration parce que les choses ne se passent pas en direct. Vous écrivez pendant un an et demi. Il y a souvent la recherche de l'éditeur, ou il y a en tout cas une discussion avec l'éditeur pour savoir comment vous allez publier au mieux le livre qui est achevé. Et s'il y a un bonheur et un plaisir dans l'édition de ces livres, c'est effectivement d'avoir à la fois accès, entre guillemets, à un public averti, entre guillemets, un public de lecteurs, et en même temps d'avoir des livres qui peuvent être mis, j'espère, entre toutes les mains et entre tous les yeux. Voilà.
D'accord, bah justement, les livres, on va en parler. Alors, donc, vous le disiez tout à l'heure, Malter, un recueil de nouvelles édité en 1995, qui a eu deux prix, qui a reçu deux prix. Après, il y a l'ami des livres, alors l'ami en deux mots.
Oui, l'ami de pain.
Voilà, l'ami de pain, l'ami des livres, en 1997, qui est un roman.
Voilà, qui est mon premier roman et qui effectivement raconte ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qui raconte ce rapport à la mer et effectivement ce rapport à la lecture et la manière dont
à la mer,
M-E-R-E, et la manière dont la lecture des contes a, au fur et à mesure, été contaminée par une sorte d'écriture personnelle beaucoup plus libre, beaucoup plus intuitive.
D'accord. Et après, donc, la Femme du Monde, qui est un roman aussi, là, c'est plus récent, c'est 2001.
Alors, c'est un petit roman qui est un livre un peu particulier dans mon trajet, puisque c'est un petit roman qui raconte une histoire toute simple, qui raconte l'histoire d'une femme qui est l'âge du siècle, donc qui fête ses 100 ans en l'an 2000. Et à travers les portraits qui sont faits de cette femme, c'est bien sûr l'histoire du XXe siècle qui est racontée. Alors ce texte a une vertu assez importante. C'est un texte extrêmement extrêmement court, extrêmement extrêmement fragmenté, et ce qui lui permet d'être souvent lu en public. Donc il a été lu par exemple par Marie-France Pizier à Grignan, mais par exemple à Toulouse, il a été lu par Judith Magre au Marathon des mots. Il a été lu à CAF Poésie avec Michel Laforêt et Lise Linart au piano. Il sera lu le 15 novembre au prochain Salon du Livre de Toulouse, à l'Espace Bodice, à Compense Caffarelli, puisque le livre ressort chez Naïve en novembre. Donc il sera relu là. C'est mon premier livre traduit à l'étranger. Donc c'est quand même un livre un peu charnière dans mon travail.
Dans votre parcours, voilà. La lettre à Anna, en 2005, c'est un roman aussi, qui vient de sortir en poche il y a une semaine.
Voilà, qui est sorti en poche fin septembre, là, chez Motif.
Ensuite, il y a Le jour de mon retour sur Terre, qui est un roman aussi qui date de 2005. Alors, le sujet, c'était le 11 septembre.
Alors, qui date de 2003 et qui est inspiré par le 11 septembre, qui est ressorti en poche en 2005, effectivement. Mais la première version date de 2003. Et effectivement, c'était parmi les premiers romans, avec celui de Beck BD et de Luc Lang.
Tout à fait.
Premier roman dans le monde entier, comme disent les Perpignanais qui croient que la guerre de Perpignan est le centre du monde, était l'un des premiers romans à aborder le 11 septembre d'un point de vue fictionnel.
D'accord. Et donc, alors après, on arrive forcément donc à Castro est mort.
Voilà.
L'édition du Rocher en 2007, voilà. Qui est traduit en allemand. Et puis donc, Cellulka en 2008, qui est une nouvelle, lui, elle, Cellulka.
Tout à fait.
On va en parler donc tout de suite. Hein. On commence par Cuba, par Castro est mort. Alors, c'est suite à un voyage que vous avez fait à Cuba 3 ans de suite.
Oui, oui, oui.
Que le livre est né, enfin, entre guillemets.
Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai eu la chance de... Il se trouve que j'ai travaillé avec une personne qui s'appelle Xavier Dartuis, qui a longtemps dirigé le festival de cinéma d'Amérique latine de Biarritz. Et pour des sujets autres et variés, on était en contact. Cette personne-là est devenue attachée culturelle à La Havane, m'a invité à La Havane en 2003 justement. Et le hasard a fait que je suis arrivé le jour de ce qu'on appelle le printemps noir, c'est-à-dire la dernière grande vague de répression, oui. La dernière grande rafle organisée par Fidel Castro. Et donc j'ai découvert La Havane sur une situation un peu paradoxale, c'est-à-dire au moment où le pays s'ouvrait vraiment quand même au tourisme, où il y avait quand même une forme de libération, une forme de possibilité d'échange avec les Cubains, et en même temps où il y avait encore quand même cette main de fer et cette répression intellectuelle. Et le livre est une sorte de déambulation dans La Havane. Le personnage qui me ressemble beaucoup est invité.
Oui, le narrateur, voilà, vous ressemble beaucoup.
Voilà, il est invité à présenter un livre
à l'Alliance française.
À l'Alliance française. Et puis la personne qui doit le recevoir, attaché culturel, du coup, est extrêmement occupée et extrêmement préoccupée par les événements qui ont eu lieu durant la nuit, et en particulier d'un point de vue diplomatique, comment réagir à cette répression très importante. Et donc le narrateur se retrouve entre guillemets abandonné dans La Havane, et il va en faire une découverte pédestre, une découverte déambulatoire, sans guide, sans idée reçue, sans but. Et c'est une manière de se mettre dans les pas de quelqu'un qui viendrait à La Havane sans
idée préconçue.
Sans idée préconçue, mmh. Oui. Et qui aurait une vision à la fois visuelle, physique de la réalité, et qui au fur et à mesure agrandirait son cercle de connaissances, agrandirait l'espace, le périmètre où il va sentir un peu la réalité cubaine. Donc effectivement, on part des quartiers historiques qui sont extrêmement beaux, même s'ils sont extrêmement décatifs.
On fréquentait des personnages comme Hemingway, Ginger Rogers, Sarah Bernard, Federico Garcia Lorca.
Tout à fait, toute l'histoire. Voilà. Et puis au fur et à mesure, avec une plongée dans les quartiers noirs de La Havane, dans les quartiers abandonnés de La Havane, hein, parce qu'il y a quand même toute la périphérie est quand même en situation de dégradation très très importante.
Et donc c'est en parallèle, donc le narrateur raconte, et puis il y a Juan Valero, un journaliste qui vient justement d'être arrêté et qui raconte lui aussi
l'histoire, son procès
truqué,
voilà, tout à fait.
Sa mise en détention pour 20 ans.
Voilà, tout à fait. L'histoire tient ainsi en parallèle, c'est-à-dire que le personnage en même temps est alerté sur l'une des personnes arrêtées, qui dans le livre s'appelle Juan Valero et qui dans la vraie vie s'appelle Raúl Rivero, qui est effectivement un journaliste cubain qui a fait beaucoup de prison et qui finalement a été obligé de s'exiler en 2005 à Madrid.
Et le vrai
effectivement a accepté, pour des raisons qu'on comprend totalement, de renoncer un peu au combat et de protéger à la fois sa vie, sa famille.
Et dans le livre, c'est pas forcément
le cas. Dans le livre, il va aller jusqu'au bout, parce que c'est une sorte de figure allégorique, hein, une figure exemplaire de la résistance à la dictature, quelle qu'elle soit, hein, pas simplement castriste. C'est un livre sans idéologie, hein. Moi, je crois que d'abord dans ma vie personnelle, j'essaie d'avoir le moins possible de point de vue idéologique. Et puis, je crois qu'un écrivain ne peut pas être idéologique.
Sinon, c'est un instrument au service
d'une propagande. Donc c'est un livre qui n'est pas
qui décrit, c'est un peu comme une photographie.
Voilà,
en fait.
Qui n'est pas anticastriste.
Photo,
voilà, qui n'est ni anticastriste ni pro-capitaliste. Mm-hmm. Qui essaye de donner une vision à taille d'homme, hein, à taille humaine.
Ce que vous avez vu.
Voilà, à hauteur d'homme. Il y a un livre que j'aime beaucoup. J'ai pas retrouvé l'écrivain. C'est un écrivain suisse, c'est Ramuse. Voilà, le nom me revient. Qui a écrit un livre dont le titre est très beau, à hauteur d'homme. Voilà. Donc c'est. J'essaye de faire des livres à hauteur d'homme.
Voilà. C'est une pas très jolie phrase, effectivement.
C'est pas la même chose.
Donc Castro est mort, c'est un très très beau livre. Enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis bon, ben on découvre effectivement, ils sont privés de il manque beaucoup de choses. Hein. Ils sont privés de beaucoup de choses, mais ils ont du cœur, quoi.
C'est,
vous avez été accueillis quand même. Les Cubains sont souriants et ils ont du cœur, quoi. Ils ont une chaleur.
Et puis c'est vrai qu'il faut reconnaître le mérite de la révolution cubaine, qui est quand même le mérite de d'avoir voulu faire des gens qui habitent à Cuba et des Cubains pas des mendiants, mais des citoyens.
Hein, avec l'éducation, voilà, avec très l'éducation. Très poussée.
Pour et c'est vrai que c'est extrêmement troublant, extrêmement touchant de voir dans la campagne, que ce soit à Vinales, à Baracoa, au fin fond de vraiment de la campagne, de voir des gens qui ont rien, pas d'électricité, pas d'eau, pas de technologie, et en même temps sachant lire et écrire parfaitement, ayant une très belle écriture, ayant une
parlant plusieurs langues,
voilà,
ouais,
parlant plusieurs langues, ayant un état d'esprit ouvert,
voilà.
Donc ça c'est une très très belle chose. Ça n'enlève pas effectivement la misère matérielle et parfois la misère politique, hein, de la population cubaine, mais c'est vrai que si on compare avec des choses comparables, c'est-à-dire à Haïti,
par exemple, ou
l'Amérique du Sud, il est évident que à Cuba, les enfants ne sniffent pas de la colle comme à Rio de Janeiro ou en Colombie. Il est évident qu'il n'y a pas d'enfants qui dorment dans les rues. Enfin bon, voilà, il y a un système.
Vous demandez plus souvent du feu que des cigarettes, là,
voilà,
qui
tout à
m'a
fait,
beaucoup marqué,
tout à
parce
fait.
Que alors ici en Europe, c'est pas vraiment le cas.
C'est l'inverse.
Hein,
voilà. Non, parce qu'il y a une forme de dignité dans le rapport à l'autre. Et ça, c'est extrêmement touchant.
C'est un des côtés, on va dire, positifs de.
Voilà. Bon. Et c'est vrai que j'ai écrit ce livre parce que j'ai croisé beaucoup de gens, des gens jeunes aussi, hein, qui venaient parfois à Cuba une semaine, 15 jours. Et je ne juge pas, bien évidemment, les gens qui partent en vacances, mais qui venaient en ayant vraiment une connaissance extrêmement limitée du pays. Et j'avais envie qu'il y ait un ouvrage, pas didactique, pas intellectuel, qui permette
de voir Cuba sous un autre angle.
À la fois sous l'œil de ce qui est intéressant au niveau architectural, au niveau littéraire, au niveau de la culture, au niveau des références, au niveau de cette ambiance quand même qui est très très riche, très très belle, hein, musicalement, enfin bon,
qui
est vraiment extrêmement belle, et en même temps qui est quand même une et qui est en même temps une information suffisante pour que les gens se sentent impliqués.
Tout à fait. Alors on parle ça n'a rien à voir là, hein, Cellulka, parce que alors, là le temps nous rattrape, hein, forcément comme à chaque fois. Donc Cellulka, c'est une nouvelle.
Oui.
Donc c'est très court, mais c'est très c'est très concentré. Alors là, ça raconte, donc le narrateur, parce que c'est écrit à la première personne, raconte son séjour à la Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon. C'est un ancien monastère qui est transformé, enfin entre guillemets, qui accueille des artistes, des écrivains dans un climat de solitude et de silence pour écrire ou pour se ressourcer. Et donc vous y avez fait, là aussi il y a pas que de la fiction, hein, il y a du réel, puisque vous y avez fait plusieurs séjours.
Tout à fait. Bah, c'est la plus grande chartreuse encore existante en France. C'est juste en face, hein, d'Avignon. Pour ceux qui connaissent le festival, il y a toute une partie de la programmation du festival d'Avignon qui a lieu à la Chartreuse. Et maintenant, c'est devenu effectivement un lieu de d'art contemporain, un lieu de création contemporaine, où à la fois aussi bien des comédiens que des metteurs en scène, que des marionnettistes sont invités en résidence. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les cellules, même si elles ont été réadaptées, sont vraiment les cellules des Chartreux.
Oui, c'est vraiment d'époque, enfin, d'origine, là où les moines étaient.
Et c'est un ordre très particulier, parce que c'est un ordre qui était vraiment dans le silence complet, avec un système de fermeture, c'est-à-dire que les cellules sont fermées par rapport à l'extérieur. Toutes les cellules donnent sur un espace privé clos, avec un petit jardin où ils faisaient pousser leurs herbes aromatiques, je précise bien aromatiques, avec un mur de 3 mètres de devant. Les cellules très grandes, 120 mètres carrés, sur deux niveaux. C'est comme ils avaient vraiment l'interdiction de parler, et parfois même d'échange total. Ils pouvaient passer des jours, des semaines, des mois sans avoir un seul échange. Donc il fallait quand même un espace assez grand pour qu'ils ne deviennent pas mentalement un peu malades. Donc ils avaient à la fois un atelier, à la fois une chambre, à la fois un bureau, vraiment un ensemble adéquat pour résister mentalement. Et ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer de montrer comment
de vivre cette solitude,
solitude, et de montrer comment, quand on se retrouve seul avec soi-même, ce qui est très difficile dans la vie moderne, et ben forcément ça pose des questions, ça interroge sur le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport à l'écriture. Le hasard veut aussi que...
La cellule que vous avez occupée, voilà, la cellule K.
Que la cellule que je devais occuper m'a été enlevée quelques jours avant que je vienne. Et on m'a remplacé de cellule. Et j'ai su un peu après que la cellule que je devais occuper avait été le lieu d'un drame, puisque Patrick Kerman, qui est un dramaturge important, qui avait fait un très beau spectacle et un très beau succès quelques années précédentes avec une pièce qui s'appelait La mastication des morts, qui avait été donnée dans le grand cloître et qui était en fait la résurgence de la vie de plusieurs moines. Donc il y avait plusieurs comédiens qui jouaient les moines, qui étaient couchés, le public venait par groupe, ça s'asseyait auprès d'un des moines, et au fur et à mesure le moine se redressait et racontait sa vie en 1500, 1600, 1700.
Oui, c'est assez original.
Donc c'était extrêmement fort.
Et donc
il se trouve que ce Kerman s'est suicidé, s'est pendu quelques jours avant dans la cellule que je devais occuper, et que bien évidemment ça m'a quand même beaucoup interrogé. Et que quand je suis rentré le premier soir dans cette cellule, et je suis comme tout le monde, je suis rentré et je crois même que j'ai dormi avec la lumière allumée.
Ce sentiment.
Il y a la présence du monde quand même. Oui. Il y a la présence des ombres dans la vie.
Voilà. Oui, tout à fait. Elles font partie de la vie d'ailleurs.
Et que avoir peur fait partie aussi de l'expérience de la vie.
Oui,
et que maîtriser le rapport à l'extrême solitude, à la lame du couteau de la solitude, est une chose, je crois, assez excitante, même si elle est un peu dangereuse. Voilà. Donc c'était un peu le texte essaye d'aller trouver ça.
On peut lire juste quelques lignes du début.
Le début du texte.
Le début de la nouvelle, donc de Cellule K, édition du Rocher, paru en 2008.
Je suis arrivé ce matin en train, comme prévu, à la première heure avec le premier train, celui que les habitués, à force et à juste titre, semble-t-il, ont surnommé le train de nuit. C'est la première fois que je viens et je ne connais personne, si ce n'est de réputation, et personne ne me connaît, même pas de nom. Et c'est non seulement un lieu, mais tout un milieu que je m'apprête à découvrir. Quelqu'un, normalement, aurait dû venir me chercher pour me conduire directement sur les lieux et me présenter à l'ensemble de l'équipe. Mais pour ça, il aurait encore fallu que je prenne la peine d'avertir de l'heure à laquelle j'arrivais, ce que volontairement j'ai choisi de ne pas faire. Je n'ai donc pas été étonné de constater qu'au bout du quai, personne ne m'attendait. Et je n'ai pas davantage été surpris, quand je m'y suis rendu, de trouver la salle des pas perdus absolument déserte. J'aurais pu alors y en trouver refuge à l'arrivée, le buffet de la gare, me renseigner sur les horaires de bus qui faisaient la navette et montaient jusqu'à Villeneuve, de l'autre côté de la ville et du fleuve. J'aurais pu également, après avoir bu mon café et lu le journal, aussi amer l'un que l'autre, téléphoner à la direction qui, sans nul doute, m'aurait dit de ne pas m'embêter et conseiller de prendre le premier taxi qui passait. Mais je n'ai pas appelé et je n'ai rien demandé, car lorsqu'on veut s'imprégner de l'atmosphère, c'est à pied et à sa guise, la valise à la main peut-être, mais l'esprit libre, qu'il faut grimper là-haut, à la Chartreuse.
Merci Didier pour ces quelques lignes. Malheureusement, on est toujours rattrapé par le temps. Mais enfin, moi, je conseille vraiment aux auditeurs de lire ces deux livres, totalement différents, hein, parce que un roman et une nouvelle, déjà au niveau de la forme, c'est différent. Et puis le contenu, évidemment, hein, Castro est mort, Cuba, et puis la Cellule K, donc c'est Chartreuse de Villeneuve, les Avignons. Mais les deux sont vraiment, vraiment. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors vos projets, Didier Goupil, pour 2009.
Alors les projets, beaucoup de rééditions.
Oui. Donc là, en poche,
la lettre à Anna qui vient de sortir, Femme du monde qui va ressortir chez Naïve
au mois de novembre,
et puis j'ai un livre en préparation pour 2009 toujours chez Naïve, un roman qui s'appelle Hôtel de l'avenir, sur lequel je suis en ce moment, et puis sans doute une petite virée en Allemagne, puisque Castro est mort, Paris en Allemagne au mois de juin, donc sans doute un petit tour à Berlin pour présenter le livre.
D'accord. Et donc vous reviendrez nous présenter votre nouveau roman. Alors,
voilà, en tout cas, merci à vous pour votre curiosité et votre enthousiasme.
Merci à vous d'écrire aussi bien et de façon à... En fait, moi, ce que je trouve, c'est que ça met en scène, c'est un peu le fait d'être scénariste. Je me demande si ça se retrouve pas aussi dans votre écriture, de décrire les scènes comme on s'y croirait. On y est. On lit et on y est.
Si, entre guillemets, si je m'embête à écrire des livres, c'est pour que le lecteur y prenne du plaisir.
C'est gagné. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère que les auditeurs également.
Merci
Didier.
À vous.
La semaine prochaine, je reçois Christian Autier pour Une belle époque. Bonne semaine à tous et restez fidèles au programme de Radio Occitanie. Adiciats. Did
Pou pou pitou pou.